Voilà, prions encore courtement. Seigneur, merci pour ces moments ensemble, merci pour ta parole, merci pour les chants qui célèbrent ton nom. Et je te prie pour que tu ouvres nos cœurs, tu nous rendes sensibles à ce que tu pourrais nous dire ce matin. Ta parole nous a été donnée pour parler à notre cœur, à nos consciences et à nos âmes. Merci vraiment, Seigneur, parce qu'elle est vivante, elle est actuelle. Rien de ce qui est écrit n'est faux, mais tout est vrai. Et nous te demandons que cette vérité nous sanctifie et nous conduise dans une vie plus profonde avec toi. Amen. Voilà, je vous propose que ce matin on poursuive le texte qu'on a commencé à étudier la semaine dernière dans 2 Rois 2. Ce texte qui parle de l'enlèvement d'Élie. Est-ce que vous m'entendez au fond? Ça va? Sinon j'avance. Ça va?
Ça passe tout bon.
Non. Merci, non.
Voilà. 2 Rois 2, versets 9 à 18, ce matin. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. » Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant « mon père, char et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils lui dirent, « Il y a avec tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent à la recherche de ton Seigneur? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a conduit sur une montagne ou dans une vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils insistèrent tant et si bien qu'il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours sans le trouver. Lorsqu'ils furent de retour vers Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit de ne pas y aller ?» Voilà, la dernière fois, on a vu qu'avant de quitter la terre d'Israël et de passer le relais à Élisée, Élie avait tenu à faire avec lui un état des lieux de la situation spirituelle du peuple de Dieu. Ils avaient visité 3 villes, Gilgal, sont des villes importantes dans l'histoire d'Israël, Gilgal, Bethel et Jéricho. Et Élisée avait pu se rendre compte de ce qu'étaient devenues ces villes, qui étaient des lieux importants, des lieux de mémoire de l'œuvre de Dieu en Israël. Après, ils avaient traversé le Jourdain à pied sec. Ils étaient sortis carrément du pays d'Israël, comme Josué l'avait fait, mais dans l'autre sens. Tout cela pour montrer à Élisée le travail qui était devant lui, la tâche extraordinaire, surhumaine, puisque tout ce que Dieu avait construit avec Israël s'était détruit. Les serviteurs de Dieu étaient persécutés, le culte à Baal dominait tout, et donc Élisée devait tout reprendre à zéro. Un auteur chrétien a dit « La Bible est le livre des positions nettes et tranchées. » Tout lecteur qui est prêt à se laisser critiquer par le texte sacré entend sans cesse résonner aux oreilles de son cœur des expressions catégoriques. Vie ou mort, bonheur ou malheur, bénédiction ou malédiction, vérité ou mensonge, lumière ou ténèbres, justice ou iniquité, sainteté ou médiocrité, liberté ou esclavage, bouillant ou froid, amour ou haine, Dieu ou mammon, esprit ou chair, vierge folle, vierge sage, blé ou ivré. La sagesse des hommes ne cesse de proclamer qu'il existe un juste milieu, une possibilité d'unir les contraires. Ce monde est pour le mélange, pour l'union, et le résultat de ce soi-disant équilibre est la confusion. Quel est l'ennemi numéro un du peuple de Dieu? Eh bien, l'histoire d'Israël nous apprend que c'est le compromis, la banalisation du péché, en quelque sorte. Quand on commence à penser et à dire « je sais ce que je fais, que ce que je fais n'est pas bien », mais après tout, ce n'est pas si grave, alors nous commençons à glisser, à pactiser avec le mal, avec le diable, le mensonge et les ténèbres. Le maître du compromis dans ce monde, c'est le diable. Et lorsque Jésus est venu sur terre, Satan lui a proposé un arrangement. Je te donne le pouvoir sur tous ces pays, sur le monde entier. Si tu te prosternes et tu m'adores. Le diable cherche sans arrêt à arranger ce qui n'est pas compatible. Le peuple de Dieu est toujours perdant dans le compromis. Et ici donc, comme je l'ai dit, on est arrivé au sommet de l'apostasie, en quelque sorte du rejet de Dieu au temps d'Élie. Le peuple de Dieu a perdu son identité, sa spécificité. Il n'est plus un peuple saint qui appartient à Dieu. Et Élie se retrouve pratiquement seul, en tout cas il le pense, à la fin de son ministère. Mais Dieu n'abandonne pas pour autant son peuple. Et on a vu que Élie convoque le peuple de Dieu à Horeb avec tous les prophètes, les faux prophètes qui servaient à la cour de Akab et Jézabel. Il démontre que Dieu est Dieu, qu'il n'y en a qu'un. Et il adresse un dernier message à Israël, qui met en lumière le problème. « Jusque à quand, dit-il, clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, allez après lui. » Autrement dit, vous ne pouvez pas servir les deux à la fois. Ou vous appartenez à l'Éternel, ou vous appartenez à Baal, mais vous ne pouvez pas trouver un chemin du milieu et composer entre les deux divinités. L'appel d'Élie ressemble tout à fait à celui de Jésus. Jésus a toujours dit les mêmes choses. L'eau que Jésus a changée en vin n'était pas du vin frelaté. C'était du vin excellent. Il n'y avait pas un mélange d'eau et de vin. C'était du vin excellent. Et je crois que Jésus vise l'excellence, toujours. Il n'y a rien que Jésus déteste plus que la médiocrité. Si on pense à Bartimée, tout à l'heure, on en a parlé. Imaginez que Jésus les guérit d'un œil seulement. C'est possible ? Ou lui disent « Tu seras guéri, mais tu auras un degré pour chaque œil. » Non. L'œuvre de Dieu était parfaite en Bartimée. Et il y a quelque chose que Bartimée a fait, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est qu'il a jeté son manteau aussi. Il a quitté sa misère pour suivre Jésus. L'Éternel parcourt du regard toute la terre, pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, verset 9. En posant la question « jusque à quand ?», Élie souligne le vrai problème dans lequel nous place le compromis. En fait, le compromis nous rend passifs. On ne réagit plus à l'égard du péché. On laisse passer les choses et le temps. On s'accoutume. On ne se rend plus compte du caractère anormal de la situation. Qui s'habitue au compromis se trouve un peu comme quelqu'un qui se trouve dans l'eau douce. C'est pas l'eau froide, c'est pas l'eau chaude. Ça me convient. Mais le problème, c'est qu'on s'endort et qu'à la fin, on risque de périr. C'est ce qui se passera pour Israël. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec Dieu, mais si vous n'appartenez pas à Dieu, sachez que cette position médiane entre deux ne peut pas durer. À un moment, on doit se décider. On ne doit pas laisser le jusque-à quand se prolonger. Ne pas opter pour Jésus comme maître, c'est rester dans le mauvais camp. C'est être du côté du péché et du diable. Et si nous sommes à Christ, l'entre-deux non plus ne nous convient pas et ne convient pas à Dieu. Nous ne pouvons pas nous installer dans une situation où Christ n'est pas vraiment le maître de notre vie. Jusqu'à quand clocheras-tu des deux côtés, dit Élie à Israël. On propose qu'on ait un moment de silence, où peut-être on peut réfléchir à notre situation face à Dieu. Si nous ne sommes pas à Christ, j'aimerais te dire ce matin, le Seigneur te dit, donne-toi, tourne-toi vers moi. J'ai donné ma vie pour toi, je te veux pour moi. Et si nous sommes à Christ, peut-être nous pouvons profiter de ce moment pour nous consacrer de nouveau à Dieu. Lui dire, moi je veux être entier pour toi. Je veux que ma vie soit à toi. Que tu me trouves entier dans mon cœur pour toi au jour où tu reviens. Voilà, prenons quelques moments et on continuera après l'étude du texte. Reprenons maintenant le cours de l'étude de ce passage. Après qu'Élisée donc et Élie aient fait le tour d'Israël, Élie pose une question. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Je pense que Élie veut donner l'occasion à Élisée d'exprimer le fardeau qui est venu sur son cœur suite à ce périple qu'il a fait, où il a pu constater l'état lamentable dans lequel se trouve Israël. Qu'est-ce qu'Élisée a retenu de sa visite? Quel est le plus grand besoin qu'il ressent? La question d'Élie nous rappelle une question aussi que Dieu a posée un jour à un jeune roi qui venait juste de monter sur le trône. Vous vous rappelez qui? Salomon. À Gabaon, l'Éternel apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon a exprimé une réponse assez longue, mais à la fin il dit « Accorde à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. » En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Je crois qu'il y a un point commun entre Élisée et Salomon, c'est qu'ils ont demandé tous les deux quelque chose pour leur cœur. Ils savent que tout part de là. Si dans le cœur, le fardeau de Dieu, l'aide de Dieu n'est pas là, tout le reste est inutile pour le ministère. Salomon a demandé la sagesse. Les deux exemples d'Élisée et Salomon nous enseignent que le contenu de nos prières et de nos demandes à Dieu est directement lié à ce qui nous préoccupe. Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? C'est cela qui va faire que nous prions de telle façon ou de telle autre façon. Je vous pose la question, et je me la pose aussi. S'il m'était offert un crédit sans limite, comme ici c'est le cas, pour recevoir quelque chose que j'ai vraiment à cœur, que demanderais-je? Si Dieu me disait, comme à Salomon et Élisée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ce qu'il a fait aussi, hein, Bartimée. Dans les deux cas, on voit que ces hommes étaient alignés à la volonté de Dieu. Ils étaient préoccupés du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que leur demande a pu être exaucée. Dans le Nouveau Testament, on lit aussi la même chose, mais dans un sens différent. Vous vous rappelez peut-être, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « C'est pas Dieu qui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Ils disent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Est-ce que parfois nous ne sommes pas aussi comme eux? Demandons à Jésus « Est-ce que tu ne pourrais pas faire ça pour moi, pour moi, pour moi ?» Jésus n'a pas pu exaucer cette prière, bien que Il les a rendus conscients. Ils ont demandé « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jacques et Jean, à cette époque, n'étaient pas préoccupés par la promotion du royaume de Dieu, mais par leur propre promotion dans ce royaume. Jésus leur a dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous êtes capable de boire la coupe que je vais boire ? Vous voulez être grand dans le ciel ? Alors vous allez devoir me suivre dans mes souffrances. » Posons-nous la question, si nous avions l'autorisation par Dieu, et nous l'avons, de lui faire des demandes, et une demande en particulier, que serait-elle ? Plus on avance avec Dieu, plus on se rend compte que c'est notre cœur qui est le premier besoin. C'est notre cœur qui a besoin d'être transformé et équipé par Dieu pour l'œuvre à laquelle il nous appelle. On va venir maintenant à la réponse d'Élisée à la question qu'Élie lui pose. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais je vais y revenir un peu. Élisée répondit « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une demande orgueilleuse, c'est une demande remplie d'humilité, parce qu'Élisée se rend compte que s'il n'est pas équipé d'une façon encore plus puissante qu'Élie, il ne pourra rien faire. Élie a fait un travail immense, mais tout est encore à faire. Il a ramené le peuple à la redécouverte de Dieu sur le mont Horeb, mais le cœur du peuple n'est pas changé pour autant. Et Élisée se rend compte qu'il faut l'Esprit de Dieu avec force pour que ce peuple change. On peut lire donc dans la demande d'Élisée deux choses. Premièrement, son humilité. Deuxièmement, la conscience qu'il a de l'immense travail qui est devant lui et son impuissance. On peut aussi penser ou prendre la demande d'Élisée d'une autre façon. Dans la parole de Dieu, dans Deutéronome chapitre 21, verset 17, il est parlé d'une double part qui est accordée à l'héritier d'une personne. En général, c'était l'aîné, c'était ça le droit d'aînesse. L'aîné recevait une double part de l'héritage familial, le droit de succession en quelque sorte. Et on peut penser qu'Élisée demande à être en quelque sorte l'héritier d'Élie. Je veux recevoir la part de l'aîné, de l'héritier. Et c'est pour ça qu'il demande donc cette double part de l'esprit. Élie est conscient que la demande d'Élisée est audacieuse, mais il ne le reprend pas. Il ne lui dit pas de baisser un peu ses exigences. Il lui dit simplement une condition. « Si tu peux me voir, pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Alors on sait que toute la parole de Dieu parle de Jésus et du ministère de Jésus, et Élisée est un type du Christ, vraiment. On le verra plus tard encore. Qui sont les héritiers de Jésus? Eh bien, ce sont ceux qui l'ont vu partir, les apôtres. La Bible le dit clairement. Au moment où Jésus est parti, il y avait ceux qui étaient ses plus proches et ceux qu'il va envoyer en mission, ses héritiers. Après avoir dit cela, il est dit dans Acte 1, verset 9, « Il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. » Après que Judas ait trahi Jésus, les 11 ont cherché à le remplacer et à trouver un candidat qui pouvait prendre la place de Judas. Et là aussi, on retrouve ce critère très précis pour faire partie des héritiers de Jésus. Il faut choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous. Acte 1, 21-22. Pourquoi est-ce que Jésus tenait tant à ce que les disciples soient présents pour le jour où il partirait au ciel? Parce que le rôle des disciples, c'est d'être les témoins de Jésus, pas autre chose. Toute notre foi à nous repose sur le témoignage de personnes qui ont connu Jésus, qui ont vu Jésus, qui l'ont entendu, qui ont marché avec lui, mangé avec lui, qui ont entendu ses discours, qui sont témoins de sa résurrection et de son enlèvement dans le ciel. Dieu a voulu nous donner la garantie maximale que l'Évangile est vrai. Ce n'est pas simplement une histoire, comme on peut l'entendre au sujet des divinités païennes, grecques ou romaines, mais c'est une vraie histoire qui s'est déroulée, telle que l'Évangile nous le rapporte. L'apôtre Jean dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. » Les apôtres insistent beaucoup là-dessus. Ce que vous avez vu, ce que nous avons vu, entendu, c'est vrai, vous devez nous croire. Vous aurez remarqué que dans le récit qu'on a lu, il y a plusieurs personnages. Il y a d'abord Élie et Élisée. Et Élisée est le seul, c'est pour ça que je dis que c'est l'héritier, c'est le seul à avoir vu Élie partir. Les autres n'ont pas traversé le Jourdain. Ils sont restés en deçà. Ils ont vu qu'Élisée revenait tout seul, mais ils n'ont pas vu partir Élie. Vous avez vu que certains d'entre eux ont du mal à croire qu'Élie est parti. Ils demandent à deux reprises de chercher Élie. Peut-être que l'Esprit de Dieu l'a transporté par-ci, par-là, et on va le retrouver. Et finalement, au bout de 3 jours, ils se rendent compte que, oui, Élie est parti. Les fils des prophètes sont un peu comme nous. Ils n'ont pas vu, mais ils doivent croire. Ils doivent croire ceux qui ont vu. Celui qui a vu. Celui qui a vu, c'est Élisée. Et nous sommes dans la même situation. Nous ne sommes pas de ceux qui ont côtoyé Jésus, qui l'ont vu partir, qui l'ont vu ressusciter. Mais nous sommes appelés à croire le témoignage de ceux qui étaient présents. Le dernier verset de l'évangile de Jean dit « C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. » Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus dira à Thomas, vous le savez, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous n'avons pas d'autre choix pour nous que de perpétuer le témoignage de Jésus-Christ tel qu'il nous a été rendu dans les évangiles. En demandant aux gens de croire à Jésus, nous demandons de croire au témoignage des apôtres qui ont cru, qui ont vu. Ce témoignage est parvenu jusqu'à nous et l'apôtre Paul dit que personne ne pourra détruire ce témoignage jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, le témoignage de Christ sera présent pour que les gens croient. Élie est donc parti, et du coup, c'est une bonne nouvelle pour Élisée, puisqu'il l'a vu partir. Peut-être qu'il n'y a pas pensé sur le coup, mais ça veut dire que sa demande est exaucée, puisque Élie lui a dit « Si tu me vois partir, alors tu vas recevoir une double portion de l'Esprit ». L'enlèvement d'Élie n'est pas un fait unique, vous le savez, dans l'Ancien Testament. Il y a aussi Hénoch qui est parti avant lui de la même façon. Mais avec son départ, il y a vraiment quelque chose de très important qui est parti, qui a quitté le monde. Et on peut le comprendre dans le cri que lance Élisée quand il voit Élie partir. Il y a une expression un peu particulière, vous l'aurez remarqué. « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, la première partie, Élie, mon père, Élisée témoigne de ce que Élie était vraiment pour lui. C'était vraiment son père spirituel. C'était pas simplement un grand frère ou un collègue, mais Élisée s'est mis à l'école d'Élie pendant plusieurs années. Il a appris à ses côtés. Et je l'ai déjà dit, mais la Bible insiste sur le fait, pour chacun d'entre nous, d'avoir aussi des pères et des mères comme modèles. Bien sûr, on doit suivre Jésus, mais suivre Jésus, ça veut aussi dire apprendre aux côtés d'autres, qui sont des imitateurs, des imitatrices de Jésus. Et la deuxième expression, « char d'Israël et sa cavalerie », c'est en quelque sorte un témoignage de la force que représentait Élie parmi le peuple. Les chars d'Israël, sa cavalerie, ça représentait la puissance militaire, la puissance qui était capable de garder le peuple, en quelque sorte, d'assurer sa protection. Et en désignant ainsi Élie, Élisée veut simplement dire que celui qui part, c'est celui qui était la force d'Israël. Les vrais gardiens du peuple de Dieu ne sont pas ceux qui sont armés d'épées, de couteaux, de chars, mais ce sont ceux qui transmettent la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. Les vrais gardiens d'Israël, on le voit dans l'histoire, ce sont été les prophètes. L'armée d'Israël, elle a été vaincue, les chars d'Israël ont été battus, mais les prophètes sont restés. Et encore aujourd'hui, on les lit, ils nous font du bien. Dans les trois plus grands livres prophétiques de la Bible, Ésaïe, Ézéchiel et Jérémie, les prophètes sont appelés les sentinelles du peuple de Dieu. C'est sur eux que repose la protection d'Israël. Et je crois qu'il en est de même aussi pour l'Église. L'Église a besoin d'hommes qui prêchent la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est la proclamation de la parole de Dieu qui garde l'Église et qui lui donne sa force. Dans 2 Rois 13, verset 14, on a la fin d'Élisée qui nous est rapportée. Et c'est Joas, le roi d'Israël, pourtant, qui descend vers lui. Joas, qui avait à sa disposition l'armée d'Israël, il pleure sur Élisée et il dit la même chose que ce qu'Élisée a dit à Élie. « mon père, char d'Israël et sa cavalerie, je perds celui qui est la force d'Israël aujourd'hui. » Et je crois que quand la parole de Dieu n'est plus prêchée, quand le Saint-Esprit n'agit plus par la parole de Dieu, eh bien on perd ce qui fait la force du peuple de Dieu. On peut encore exister physiquement, mais la force, elle tient dans la parole de Dieu et dans le Saint-Esprit qui agit. Élie est donc enlevé sous les yeux d'Élisée dans un tourbillon de feu. Et je suis content qu'il y ait cette description, parce que si nous n'avions pas cet exemple, et l'exemple d'Enoch, et l'exemple de Jésus, nous aurions peut-être du mal à croire qu'un jour, nous aussi, nous pouvons être enlevés. Hein ? Lorsque l'apôtre Paul parle de l'enlèvement des croyants à la fin des temps, il ne s'appuie pas sur une idée farfelue, mais sur des faits qui ont existé avant lui et avant ce moment. Et ce que Dieu a fait avec quelques-uns, il peut le faire pour tous. Je vais vous lire le passage où il est parlé de notre enlèvement. C'est 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, comment est-ce que nous le croyons ? Par le témoignage de ceux qui étaient avec lui. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Est-ce que c'est de la science-fiction ? Non, parce que des choses ont déjà été vécues de cette façon. Ce n'est pas de l'imagination. Notre enlèvement s'appuie sur le récit de trois autres enlèvements. Ceux d'Élie, d'Enoch et de Jésus. Et deux parmi ces hommes, ces trois, ne sont pas passés par la mort, l'autre est ressuscité. Combien est précieux le témoignage de la parole ? Parce que c'est sur la base de ce que nous ont transmis les apôtres et les prophètes que notre foi s'appuie, et on peut croire cela. On va encore aborder un dernier point, les circonstances de l'enlèvement d'Élie. Verset 11. Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire ? Ils étaient simplement en train de discuter. Hein ? Est-ce qu'ils ont eu le temps de finir la conversation ? De quoi ils discutaient ? Je ne sais pas. Mais le fait qu'Élie soit enlevé comme ça brutalement, au milieu d'une activité tout ordinaire, nous avertit du fait que l'enlèvement des croyants pourra se passer de la même façon. Dans Matthieu 24, il est dit « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. » Jésus dit « Alors deux hommes seront dans un champ, peut-être en train de cultiver, de labourer. L'un sera pris et l'autre laissé. » Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Nous ne pourrons pas prévoir cela. Vous avez chacun un agenda, vous ne pouvez pas mettre jeudi matin à 10h, Jésus revient et me prend. La question qui se pose, c'est que serais-je en train de faire ? Au moment où le Seigneur viendra. Dans quelle situation n'aimerais-je pas qu'il me trouve ? Si nous ne voulons pas être dans la confusion à ce moment-là, alors nous devons demeurer en lui, comme on l'a entendu ce matin. Vivre chaque jour dans sa présence. C'est le conseil que nous donne la Bible à bien des reprises. Jean 2, 28. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Demeurer en lui, c'est demeurer dans une attitude de paix, de repos, de confiance. Une attitude qui demande de la vigilance, de la discipline, de l'obéissance. C'est rester caché en lui. Refuser ce qui peut nous faire sortir de la communion avec lui. Ça nous oblige à entretenir nos pensées, nos affections, à nous nourrir de sa parole. C'est aussi se laisser travailler, émonder par lui, comme dit Jean. Accepter que le Seigneur nous libère de nos passions, de nos liens, de ce qui nous détourne de lui. C'est aussi le laisser nous briser dans nos traits de caractère qui ne reflètent pas son amour, qui fait que nous soyons cassants au lieu d'être doux et patients. Tout ça, c'est demeurer en lui. Une deuxième chose qu'on lit dans le texte, c'est que une fois qu'Élie est parti, Élisée prit ses vêtements et mit immédiatement Dieu à l'épreuve en frappant les eaux du Jourdain. C'est intéressant parce que Élie est parti, il vient de partir, mais Élisée se met déjà au travail. Il ne perd pas de temps. Il traverse le Jourdain et il rentre en Israël. On va voir ses premiers pas la prochaine fois en Israël. Ça nous rappelle aussi ce que Jésus a dit quand il est parti, pas lui directement, mais un ange ou deux anges. Il a dit, alors que les disciples avaient les regards fixés vers le ciel, pendant que Jésus s'en allait, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ne perdez pas votre temps, mettez-vous à l'œuvre. Vous allez recevoir le Saint-Esprit pour être les témoins de Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Si Jésus nous a quittés, c'est pour nous envoyer en mission et continuer l'œuvre qu'il a commencée. Les disciples l'ont fait, mais l'appel est pour tous les chrétiens, tous ceux qui suivront les disciples après eux et qui seront là pour continuer à apporter ce témoignage. La bonne nouvelle du royaume, dit Jésus, doit être prêchée dans le monde entier. Alors seulement viendra la fin. Ne restez pas passifs, mais levez-vous et allez. Conclusion. Vous posez trois questions. Si tu avais une seule demande à faire au Seigneur pour ta vie, que lui demanderais-tu? Qu'est-ce que tu as de plus cher, qui te tient le plus à cœur? Pour vivre avec lui. Je crois que tu as le droit de le dire au Seigneur. Tu as le droit de lui dire, Seigneur, moi je veux ça pour ma vie, pour marcher avec toi. Deuxième question, où Jésus te trouvera-t-il quand il reviendra? Dans quel état d'esprit? Le temps est court. Demeurez en lui, dit Jean, ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Ne clochons pas des deux côtés, mais soyons entiers pour Jésus. Et puis la troisième conclusion, c'est que nous avons une mission que je vous rappelle, que je me rappelle. Allez, Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples, continuez à témoigner, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.